Théologie mystique par le Père Philippe à Saint-Joseph, le 18 juin 85.
Nous allons regarder les trois dernières initiatives de Jésus du haut de la croix. Ces trois initiatives qui regardent Marie, sa mère, qui regarde, qui s'exprime dans le cri de soif, et puis la remise de son esprit. Tout est achevé. Alors, je soulignais la dernière fois cette initiative au-delà de l'obéissance. Et je crois que c'est cela que nous devons essayer de comprendre. C'est dans l'obéissance que Jésus va à la croix. Une obéissance au Père. Et c'est dans cette obéissance au Père que Jésus va à la croix. Par l'obéissance, on s'identifie intérieurement, intentionnellement, par l'amour, à celui qui nous donne l'ordre. Le cœur de Jésus, en obéissant, est un avec le Père. Et dans cette unité avec le Père, Jésus connaît de connaissances expérimentales un nouvel élan d'amour. Il y a à ce moment-là cette expérience, cette initiative qui n'est plus de l'ordre de l'obéissance, qui est de l'ordre de l'amour, cette initiative nouvelle à l'égard de sa mère. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ce que le Père fait par rapport à Marie, le Fils le fait pareillement par rapport à Marie. Le Père a donné Marie à son Fils bien-aimé. Jésus va donner Marie à celui qui est son fils bien-aimé, Jean. Et ceci, non pas au sens strict dans l'obéissance, mais dans la docilité à l'Esprit Saint, sous la dépendance de l'Esprit Saint et dans l'unité avec le Père. Et c'est comme un nouveau regard de Jésus sur Marie. Et je crois que nous pouvons dire cela. C'est comme un nouveau regard de Jésus sur Marie. C'est le regard du Père. Ce n'est plus le regard du Fils. En tant que Fils, Jésus ne pouvait pas faire cela. Mais c'est en tant qu'un avec le Père. Et il est un avec le Père dans l'obéissance. Alors ce nouveau regard de Jésus sur Marie, ce regard avait déjà commencé d'exister à Cana et durant toute la vie apostolique de Jésus. On peut dire que durant toute sa vie apostolique, Jésus a un regard nouveau sur Marie. Mais c'est à la croix où il y a quelque chose d'ultime dans ce regard. Ce regard nouveau s'exprime de ce fait que Jésus lui dit « femme ». C'est celle qui est la nouvelle créature. Nous pouvons nous dire l'Immaculée et qui doit accomplir une œuvre semblable avec le nouvel Adam. Il doit accomplir une œuvre en union avec le nouvel Adam. avec Jésus. Ce n'est plus celle qui est la mère de Jésus, mais celle qui a la même mission que lui. Et c'est en ce sens-là que quand Jésus lui dit « femme », Marie représente toute l'Église. Elle est l'anticipation de l'Église. Elle est celle qui, d'avance, représente ce que l'Église fera ensuite. Il l'a fait d'une façon personnelle et selon une causalité exemplaire, unique, comme modèle. Et c'est évident que c'est au moment de la croix où c'est l'heure de la femme, c'est-à-dire l'heure de celle qui est associée intimement à la vie, à la mission de Jésus, à la mission de Jésus qui s'accomplit à la croix. Et c'est, je crois, ce regard de Jésus sur Marie qu'il l'appelle femme. Alors nous pourrions ici, je ne fais que simplement le noter, nous pourrions ici comprendre comment Jésus indique par là l'unité profonde de Marie avec lui dans cette mission, tout le mystère de la compassion. Elle est une avec Jésus dans cette mission par rapport à la volonté du Père sur Jésus et sur elle. Et à travers les vertus de foi, d'espérance et d'amour. Le mystère de la compassion nous aide à comprendre, le mystère de la compassion, c'est un mystère de foi, d'espérance et d'amour, avant tout. Comme, si vous voulez, le mystère de l'Annonciation est avant tout un mystère de foi, d'espérance et d'amour. Prius concepit in corde quam incarne. Et il y a quelque chose d'analogue ici, c'est que Marie est intimement liée dans sa foi, son espérance et son amour au cœur de Jésus, à la volonté de Jésus obéissant au Père et s'offrant en holocauste d'amour pour glorifier le Père et nous sauver. Et Marie est entraînée dans ce même mystère. Quand je serai attachée sur la croix, j'attirerai tout à moi. Et on peut dire que Marie est attirée par Jésus pour vivre le même mystère. Mystère de glorifier le Père et de nous sauver, sauver les hommes, avec Jésus et en lui, c'est bien évident. Elle glorifie le Père par Jésus et elle nous sauve par lui. Alors, c'est là où il faut comprendre ce mystère de la compassion. Parce que c'est bien ce que Jésus regarde en elle, celle qui est la femme, l'associée à toute l'œuvre de Jésus comme nouvel Adam. Et donc celle qui est une avec lui, vivant ce même mystère que lui, et le vivant à sa manière, c'est-à-dire dans la foi, l'espérance et l'amour, et par là complétant. C'est le rôle de la femme. La femme est relative pour compléter, pour achever. Et Marie est toute relative au Christ pour achever ce qui manque à la passion de Jésus. Et cette complémentarité, nous devons la comprendre par rapport au mystère de l'Holocauste, de l'agneau, et par rapport au mystère du prêtre. Puisque l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la victime et du prêtre dans l'unité d'amour. Et donc cette complémentarité doit s'entendre de cette double façon. Elle doit s'entendre du côté de l'agneau, et nous savons comment nous pouvons comprendre cette complémentarité du côté de l'agneau, en voyant comment Marie, par sa foi, son espérance et son amour, peut apporter quelque chose de nouveau que Jésus ne peut pas lui offrir, puisque les sommets de son intelligence et de son cœur sont dans la vision béatifique. Il faut donc que Marie, vivant dans la foi, offre ce que Jésus ne peut pas offrir. Et c'est toujours l'œuvre de l'épouse, là. C'est d'offrir ce que l'époux ne peut pas faire et de réaliser au plus intime de son cœur ce que l'époux ne peut pas faire. Il y a quelque chose que Jésus ne peut pas faire. Au point de vue de l'intensité de l'amour, Marie n'ajoute rien. Elle ne peut pas ajouter quelque chose puisque tout y vient de Jésus. Donc elle ne peut rien ajouter. Mais au point de vue de l'extension, elle ajoute quelque chose. Elle permet à l'état victimal de Jésus de s'étendre, et de s'étendre au plus intime de son âme, au plus intime de son esprit, c'est-à-dire dans son intelligence et dans sa volonté, par le point de vue de la foi et par le point de vue de l'espérance. Là, c'est là où il faut comprendre comment, par la foi, notre intelligence peut être immolée, peut être offerte en état d'immolation. Et comment, par l'espérance, notre volonté peut être offerte en état d'immolation. Donc, il faut théologiquement saisir comment Marie peut achever au plus intime de son esprit, dans son âme, ce qui manque à la passion de Jésus. Ce qui manque, entre guillemets, on le sait bien, comment la passion du Christ peut s'étendre au plus intime de son cœur, au plus intime de son cœur de femme, de créature. Par la foi et l'espérance, il y a donc une possibilité pour Marie de compléter, dans l'ordre de l'extension, ce qui manque à la passion de Jésus. Donc c'est tout le grand mystère de la compassion. Et ce grand mystère de la compassion, Jésus le regarde en disant « femme ». Et par là, Jésus confirme que Marie est bien « sotchia », c'est le terme d'Albert le Grand. Elle est celle qui est la compagne de Jésus crucifié. Elle est l'épouse de Jésus crucifié. Elle ajoute ce qu'elle doit ajouter. Et c'est là où nous pouvons comprendre aussi comment se réalise ce que le prophète Osée avait proclamé, le sponsabo in fide, in misericordia, in justitia. Puisque c'est l'alliance de l'époux et de l'épouse. Et cette alliance de l'époux et de l'épouse se fait in fide, in misericordia, in justitia. Et je crois que théologiquement, on doit creuser ces trois aspects. In fide, nous comprenons très bien, c'est par sa foi ajoute ce qui manque du côté de l'extension à la passion du Christ. In misericordia, c'est l'espérance. Par l'espérance, elle est liée à la miséricorde du Père et elle peut offrir les désirs les plus profonds de son cœur, les désirs insondables de son cœur. Elle les offre à Dieu. Elle est dans un état de pauvreté radicale qui fait que tous les désirs de son cœur sont brûlés. Les désirs les plus légitimes et les plus grands. Les désirs du cœur de la femme sont complètement brûlés. Et par la miséricorde, c'est par l'espérance, je veux dire, c'est la miséricorde du Père qui prend possession d'une façon nouvelle de son cœur. Et injustitia, c'est par le point de vue de la charité. C'est dans la charité. Elle est liée au mystère de la justice. Alors là, c'est peut-être la chose la plus mystérieuse qu'il faudrait creuser. Comment Marie peut-elle être, par l'amour, liée à ce qui est unique à Jésus? Jésus seul, saint Irénée, saint Anselme, saint Thomas, parle de l'aspect de la satisfaction du mystère de la croix. Montre comment le Fils bien-aimé, qui est Dieu, peut seul être en face de la justice du Père. Aucune créature ne peut être en face de la justice du Père, comme créature. Mais Marie, par l'amour, dans l'agapé et dans la plénitude d'amour, peut alors être liée à cette justice divine que vit Jésus et qu'elle vit dans l'amour. Sponsavo in justitia. Des épousailles dans cette justice divine. Il ne s'agit pas d'une justice humaine, il s'agit de l'ordre de la sagesse de Dieu. Puisque c'est ça la justice divine. C'est l'ordre de la sagesse de Dieu. Et c'est cet ordre de la sagesse de Dieu que Marie vit pleinement et totalement. Dans son amour. Donc Marie achève le mystère de l'Holocauste de Jésus. Et Marie achève aussi le mystère de son sacerdoce. C'est normal, puisque c'est les épousailles de l'époux et de l'épouse, et donc il y a bien cet achèvement que réalise l'épouse. L'épouse n'est pas celle qui simplement est un écho, elle est celle qui achève. Elle est celle qui dispose et achève. Et je crois que nous pouvons comprendre cet achèvement du sacerdoce de Jésus dans le cœur de Marie, ce qui est évidemment a été beaucoup moins développé et qui est beaucoup plus délicat au point de vue théologique. Mais je crois que nous pouvons le dire, parce que ce n'est pas seulement du côté victimal. Du côté victimal, j'allais dire, ça va de soi. Ce qui est plus difficile, c'est de comprendre comment le côté victimal est dans le Christ ne fait qu'un avec le point de vue de son sacerdoce. Si donc il y a complément du côté victimal, il y a nécessairement complément du côté sacerdotal. Et c'est peut-être ce qui nous aiderait à mieux comprendre ce qu'est le sacerdoce royal des fidèles. Et on dit bien royal parce que il complète le sacerdoce de Jésus. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a quelque chose de royal. Le côté magnanime, le côté de l'achèvement du sacerdoce du Christ. Il est sûr que Marie offre Jésus au Père. Et l'offrande de Jésus au Père achève l'offrande de Jésus. Jésus s'offre au Père. Et Marie l'offre avec lui, au Père, il s'offre. Vous voyez, le sacerdoce royal des fidèles peut compléter le sacerdoce du Christ, alors que le sacerdoce ministériel ne complète pas. Toute la différence qui existe entre le sacerdoce royal des fidèles et le sacerdoce ministériel. Dans le sacerdoce ministériel, le prêtre agit in persona Christi, il n'ajoute rien, il ne fait pas nombre avec le Christ, tandis que le sacerdoce royal des fidèles vécu par Marie à la croix permet un achèvement, ce que le sacerdoce du Christ ne pouvait pas faire, Marie va le faire. Et ceci va faire comprendre toute la fonction profonde de l'Église à la suite de Marie. C'est tout un développement de l'Église qui a été très peu fait parce que c'est très rare qu'on regarde l'Église dans la lumière de Marie. Vous savez bien, c'est une chose habituelle qu'on dit, ou on est mariologue, ou on est ecclésiologue. Il ne faut surtout pas séparer ce que Dieu a uni. Pour être un véritable mariologue, il faut comprendre que l'ecclésiologie ne peut se comprendre que dans la lumière de Marie. Et c'est Marie qui éclaire l'Église. Ce n'est pas l'Église qui éclaire Marie. Hein. C'est Marie qui éclaire l'Église. Et si je veux aller jusqu'au bout du mystère de l'Église, je dois regarder le mystère de la compassion. C'est Marie qui fait comprendre. C'est toujours comme ça, le mystère de Dieu. Parce que le mystère de Dieu est toujours personnel. C'est toujours par la personne qu'on comprend le reste. C'est même vrai du péché. Hein. Le péché est personnel. Il n'est pas premièrement collectif. Par le point de vue de la personne, je comprends les répercussions du péché, les conséquences du péché. Et c'est la même chose au point de vue de la grâce. L'Église n'est parfaitement intelligible qu'à travers Marie. Et donc, saisir la mission de l'Église ne peut se faire qu'à travers Marie. Et c'est, je crois, cela que nous devons essayer de comprendre quand nous entendons ces paroles de Jésus. Femme, voilà ton fils. C'est le regard de Jésus sur la femme. Et donc sur la créature totalement renouvelée par la croix. Marie est la première qui reçoit tout de Jésus. Et en même temps, qu'elle est la première qui reçoit tout, en même temps, elle donne tout. Plus elle reçoit, plus elle donne. C'est ça le mystère de l'Église. Et c'est cela le mystère de la compassion. Recevoir sans donner, c'est l'attitude du tout petit enfant. Le petit enfant reçoit. Il est trop petit pour donner. Tandis que l'épouse reçoit tout et donne tout. Elle ne garde rien pour elle. Elle reçoit tout. Marie reçoit tout de Jésus et Marie donne tout. Vous voyez, à ce point de vue-là, elle est l'icône à la croix du mystère du Fils bien-aimé. Le Fils reçoit tout du Père éternellement et il est entièrement donné au Père. Et c'est en ce sens-là qu'il fait œuvre commune, ou si vous voulez, c'est pas une œuvre, mais c'est en ce sens-là qu'il spire l'Esprit Saint. Marie reçoit tout et donne tout. Et c'est en ce sens-là qu'il y a ce mystère de fécondité. Femme, voilà ton fils. Et la fécondité est exprimée comme une conséquence. Et la fécondité, c'est toujours lié à la fécondité ultime et dernière de l'Esprit Saint. Vous voyez, les deux fécondités dans le mystère de Marie, la première fécondité à l'Annonciation, la seconde fécondité à la croix. Et c'est les deux fécondités analogues aux deux processions dans la Très Sainte Trinité. Il y a deux processions dans la Très Sainte Trinité, il y a deux fécondités dans le cœur de Marie. C'est du reste assez merveilleux. Si on veut comprendre cela. Et cette seconde fécondité est donc l'analogue, si vous voulez, comprenant bien, je dis bien analogue, c'est-à-dire totalement différente, mais en même temps reliée à cela, de l'aspiration dans la Très Sainte Trinité. Et c'est pour ça qu'il y a « Femme, voilà ton fils ». C'est le mystère de la femme dans sa fécondité. Et la fécondité seconde, qui est la fécondité à l'égard de Jean et à l'égard de toute l'Église, à l'égard de tous les hommes. La première fécondité ne regardait que Jésus. La seconde a cette extension, fécondité mystique, qui présuppose la première et qui achève la première. Je ne dis pas qu'elle est plus grande que la première, comprenons bien. La première a une noblesse unique, mais celle-là a une extension plus grande. Elle présuppose la première. Donc, cette parole de Jésus adressée à Marie doit nous permettre d'entrer dans la contemplation de Jésus. Regardant Marie dans la lumière du Père et la regardant comme le Père la regarde. Et par là, nous révélons ce qu'est Marie à la croix. Femme. Je vous ai déjà dit, il faut toujours mettre en parallèle ces trois grands textes de Saint Jean au niveau de la femme. Cana, la croix et puis l'Apocalypse. Et ce sont les trois grands textes sur la femme qu'on doit mettre toujours en parallèle. Parce que les trois s'éclairent mutuellement. Cana éclaire la croix éclaire Cana, et l'Apocalypse éclaire les deux. Et l'Apocalypse, c'est la femme qui enfante. C'est la femme qui enfante. Et Marie à la croix, c'est la femme qui enfante. Et c'est le dragon qui la poursuit, parce que le mystère de cette seconde fécondité se fait dans la lutte. La fécondité de la croix est une fécondité qui se fait à travers la grande lutte de la croix. Tandis que la première fécondité, elle est dans le silence et la joie. La seconde, elle est dans la lutte. Dans la lutte à son paroxysme, puisque c'est à la croix. Donc il faut saisir toute l'intensité de cette affirmation de Jésus sur Marie, en comprenant qu'il ne s'agit pas d'une parole qui serait comme un dernier regard de Jésus sur sa mère. C'est un dernier regard, mais c'est au fond un testament. C'est une dernière volonté, c'est un ordre. Femme, voilà ton fils. Et Jésus veut faire comprendre que Jean est vraiment fils de Marie. Je vous ai déjà dit, mettez en parallèle cette parole de Jésus à Marie avec celle de Jésus à Pierre. Fais paître mes brebis. Jésus dit mes brebis, tandis qu'à Marie, il dit voilà ton fils. Alors, il faut voir combien cette parole met demande à Marie ou révèle que Marie est source de vie pour Jean. Autrement, Jésus ne pourrait pas dire ton fils. Donc Marie est source de vie pour Jean, tandis que Pierre n'est jamais source de vie pour les brebis du Christ. Son rôle, c'est de les conduire. Tandis que le rôle de Marie, c'est de les enfanter, leur donner vie. Femme, voilà ton fils. C'est de donner une vie nouvelle à Jean. Et une vie divine. Une vie qui est la vie même que Jésus donne à Jean. C'est la même vie. La vie que Jésus donne à Jean en tant qu'il est source de vie pour Jean et la vie que Marie lui donne, c'est la même vie. Elle fait œuvre commune avec Jésus. Et c'est cela que Jésus veut nous faire comprendre. Si elle est une avec lui, en tant que femme, si elle est une avec lui, faisant la même œuvre que Jésus et achevant et complétant l'œuvre de Jésus, elle a la même fécondité. Voilà ton fils. Et Jean est le fils de Marie comme il est le fils de Jésus. Et il est dans cet état de dépendance à l'égard de Marie comme à l'égard de Jésus. C'est-à-dire qu'il reçoit d'elle cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle qui est la vie de la grâce. Ça ne peut être que ça. Et voyez comment la grâce chrétienne nous lie au cœur de Jésus et comment la grâce chrétienne nous lie au cœur de Marie. Ce sont les deux grandes modalités de la grâce chrétienne. Elle est liée au cœur de Jésus puisque Jésus est source de grâce pour nous. Son humanité sainte et instrument de grâce, mais instrument d'une manière toute divine, et donc on peut dire qu'elle est source de grâce pour nous, et on peut dire la même chose pour Marie, puisqu'elle coopère, et je prends uniquement le texte, hein, en essayant de le saisir dans toute sa force. Et Marie est source de vie pour Jean. Donc la grâce de Jean provient de Marie. Elle a donc un mode particulier qui lie Jean à Marie d'une manière éternelle. Comme nous sommes liés à Jésus, nous sommes liés à Marie. Femme, voilà ton fils. Alors essayez de comprendre ce que cette parole a pu être pour le cœur de Marie. Marie est au pied de la croix, toute entière, attentive à Jésus. Elle ne s'occupe que de lui. Elle est là pour lui. Comme une mère peut être attentive à son fils qui agonise. Comme celle qui reçoit tout de Jésus, sous le souffle de l'Esprit, peut être attentive à le contempler. C'est au moment où Marie contemple Jésus, c'est au moment où Marie est tout entière donnée à Jésus, et qu'elle ne fait que le contempler, elle ne peut pas faire autre chose, que Jésus lui demande de regarder Jean. Je crois que c'est très important pour comprendre les liens entre la vie contemplative et la vie apostolique. C'est là où nous le saisissons. Marie, la contemplative par excellence, et sa contemplation à la croix prend une modalité unique. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. Donc elle est attirée vers Jésus, comme elle ne l'a jamais encore été. Il y a une croissance d'amour en Marie. Et donc elle connaît à la croix une contemplation qu'elle n'a encore jamais connue, dans l'ordre de l'intensité, dans l'ordre de l'amour. Et c'est au moment où elle est plus unie à Jésus que Jésus lui demande de regarder Jean. Et ce regard de Marie sur Jean, ce n'est plus un regard contemplatif, c'est le regard de la mère qui enfante à la vie divine. C'est donc un regard qu'on dirait apostolique, si vous voulez. C'est vraiment le regard apostolique. Elle est la reine des apôtres, là. Elle est celle qui fait comprendre le lien entre la contemplation et la vie apostolique. Et elle le vit. Et c'est vécu de cette manière unique dans son cœur, au point de vue des exigences de la contemplation et du regard apostolique. Marie accepte de vivre par Jésus le nouveau précepte de la charité fraternelle. Alors ceci aussi, c'est important à souligner si nous voulons aller le plus loin possible dans ce mystère de Marie. On peut dire qu'à l'Annonciation, nous comprenons que la contemplation de Marie à un mode maternel. Et ici, à la croix, nous comprenons que la charité fraternelle a un mode maternel en Marie. Puisque c'est en tant que mère que Jésus lui dit de regarder Jean. Et alors c'est peut-être ce qui fait comprendre le caractère très impératif de la charité fraternelle. Puisque Jésus veut nous montrer ce caractère maternel de Marie en proximité de Jean, de Marie en intimité avec Jean. Jean a besoin d'elle pour pouvoir vivre pleinement ce qu'il doit vivre. Ensuite, il dit aux disciples, voilà ta mère. Alors je peux faire le même raisonnement. Jean est là uniquement pour Jésus, et c'est Jésus qui lui dit de recevoir Marie. Et je crois que c'est toujours un peu comme ça pour nous. C'est dans la mesure où nous sommes attirés par le Christ et attirés par Jésus que c'est Jésus lui-même qui nous demande de regarder Marie. Et c'est toute la différence entre la dévotion à la Très Sainte Vierge et l'attitude contemplative à l'égard de Marie. Dans la dévotion, vous regardez les mystères de joie et vous voyez la beauté la splendeur de Marie. À la croix, nigra sum cette formosa. Elle est vraiment brûlée par la souffrance. Elle n'a plus de visage, comme Jésus. Plus rien qu'à dire, comme Jésus. Et c'est la beauté intérieure qui est donnée à Jean. Et Jésus veut que Jean la regarde. C'est Jésus qui lui donne un ordre impératif. Et Jean la reçoit. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Il l'a reçu. Et la bonne, en grec. C'est la même expression qu'au début de l'évangile de Saint Jean, où on dit recevoir la parole de Dieu. Jean l'a reçu comme un don de Dieu. Il l'a reçu dans sa foi. Marie fait partie du mystère de notre contemplation. Marie fait partie du mystère de notre foi contemplative, de notre espérance de pauvre et de notre charité. C'est Jésus qui nous la donne, c'est pas nous qui la choisissons en premier lieu. Et comme Jésus nous a aimés le premier, j'allais dire, ici c'est Jésus qui nous la donne en premier lieu. Jean n'avait pas du tout choisi Marie pour être sa mère. C'était impossible pour Jean, puisque Marie était la mère de celui qu'il considérait comme son maître et son Dieu. Il n'aurait jamais osé regarder Marie comme sa propre mère. Il faut que Jean connaisse cette fidélité et soit dans cette extrême solitude pour recevoir Marie par le Christ, comme une volonté du Christ. C'est toujours cette parole que nous devons recevoir dans la foi, l'espérance et l'amour qui peut seule nous permettre de connaître à l'égard de Marie le lien d'intensité et d'amour que Jésus veut que nous connaissions. C'est pas nous. C'est là le grand mystère. Hein. C'est que vraiment Marie est donnée à Jean par Jésus. Et Marie est donnée à chacun d'entre nous par Jésus. C'est son ultime volonté. C'est son testament d'amour. C'est ce que saint Ambroise et saint Augustin ont tout de suite compris. C'est la dernière volonté de Jésus. C'est donc le testament. C'est un testament plus ultime. Il y a le premier testament, le mystère de la scène, et le second testament. Et il faut regarder les circonstances différentes de l'un et de l'autre. Le testament fait en présence des 12, Judas étant présent. C'est le testament officiel. C'est le testament dans son corps et dans son sang. Et puis il y a un testament secret. Il n'y a que Jean, personne d'autre. Un testament intime, un testament familial, dit saint Ambroise. Donc tout à fait intime, qui est Marie. C'est Jésus qui donne le trésor de son cœur, la perle, celle qu'il aime le plus. Celle qu'il aime du même amour qu'il aime son Père. Et c'est celle-là qu'il donne pour qu'elle soit la mère de Jean. C'est Jésus qui, dans son ultime volonté, veut ce lien, veut cette alliance d'amour, cette alliance de surabondance. Ce n'était pas nécessaire, c'est toujours ce qu'il faut se rappeler. L'alliance dans le corps et le sang est nécessaire. L'alliance avec Marie, c'est la surabondance de l'amour. C'est une alliance qui est au-delà de l'aspect hiérarchique de l'Église. La hiérarchie de l'Église repose sur le mystère de l'Eucharistie. C'est une hiérarchie eucharistique, la hiérarchie de l'Église. C'est ce que le Saint-Père a dit d'une façon si forte et si étonnante quand il est venu à Paris, au Parc des Princes. Il faut un pape pour pouvoir dire ça. Je suis pape depuis 2 ans, je suis évêque depuis 20 ans, mais ce qui est le plus grand, c'est que je suis prêtre. Ça c'est vraiment le montrer que l'Église, dans ce qu'elle a de plus grand, c'est le mystère de l'Eucharistie. C'est le mystère du sacerdoce lié à l'Eucharistie. Ça, c'est l'aspect la hiérarchie de l'Église, c'est l'aspect visible de l'Église, c'est l'aspect institutionnel de l'Église. C'est ce mystère de l'Eucharistie. Tandis que Marie est au-delà. Jésus n'a plus aucune liberté politique, plus aucune liberté liturgique. C'est à ce moment-là qu'il nous donne Marie. Marie est au-delà de la liturgie, au-delà de la hiérarchie. C'est une liberté toute intérieure, c'est dans une liberté toute intérieure que Jésus nous donne Marie. C'est l'ultime don. Il est offert, mais il y a quelque chose qu'il peut encore donner, c'est le secret de son cœur. Il y a quelque chose qu'il peut encore donner, c'est le trésor de son cœur. Et c'est celui-là qu'il donne, librement, en surabondance d'amour. C'est pour ça que le mystère de Marie est toujours un mystère de surabondance. On ne peut pas l'imposer, vous voyez. Et c'est pourtant ce qui est le plus nécessaire. Comme toujours, dans l'ordre de l'amour, la surabondance est toujours ce qui est le plus nécessaire. C'est ce qu'il y a d'ultime, c'est ce qu'il y a de dernier. Et c'est cela qui est donné de cette manière si impérative. Jésus ne dit pas à Jean, si tu le veux, non, voilà ta mère. Jean est libre d'accepter ou de ne pas accepter, mais c'est impératif, parce que c'est la surabondance. Alors ça prend ce caractère si impératif. Je crois qu'il faut toujours comparer ces deux alliances. L'alliance avec les douze, l'alliance avec Jean seul. Et cette alliance avec Jean seul, parce que c'est une alliance d'amour, elle n'est pas exclusive. À travers Jean, c'est tous les apôtres. À travers Jean, c'est chacun d'entre nous. À travers Jean, c'est toute l'Église. Et c'est toute l'humanité. Mais l'humanité fidèle. Jean, le disciple bien-aimé, fidèle. Il est là par fidélité au Christ. Et Jésus récompense cette fidélité en lui donnant Marie. C'est la surabondance d'amour. Alors pourquoi cette nouvelle alliance de surabondance? C'est pour que Jean la prenne chez lui. C'est pour que Jean connaisse donc avec Jésus une nouvelle intimité. Par Marie, il connaît un nouveau lien avec Jésus. Puisque par Marie, il est le frère de Jésus. Par Marie, il parle la langue maternelle de Jésus. Il y a un lien. Par Marie, toute la vie cachée que Marie a vécu et donné à Jean. Jean n'est pas mis en dehors et l'Église n'est pas mise en dehors de la vie cachée. Grâce à ce don que Marie a fait, grâce à ce don que Jésus a fait de sa mère. Toute la vie cachée, tout ce que Marie a vécu est donné à Jean. Le mystère de l'Immaculée Conception est donné à Jean par Marie. Et il est donné à l'Église. Pour que nous comprenions que ce privilège unique, personnel, est en même temps donné à Jean et à toute l'Église. Je crois que c'est très important de comprendre cela, parce que ça nous aide à saisir la signification profonde de ce don. C'est pour que toutes ces richesses soient données à Jean, et en même temps toutes ces pauvretés. Parce que celle qui est donnée à Jean, c'est celle qui est la plus délabrée. C'est celle qui est dans un état de pauvreté la plus absolue. C'est celle qui n'en peut plus dans le mystère de la compassion. C'est celle qui est la plus pauvre. C'est celle-là qui est donnée. Jean, en recevant Marie, reçoit toutes les souffrances de Marie. Il l'a pris chez lui
Et toutes les souffrances de Marie lui sont données. Tout le mystère de la compassion lui est donné. Et ceci fait comprendre justement la signification de cette alliance de surabondance. Encore une fois, une alliance qui n'est pas nécessaire. C'est pour ça que Jésus ne le fait pas dans l'obéissance au Père. Il le fait dans une initiative personnelle pour que tout puisse s'achever à travers le cœur de Marie, pour que tous prennent sa dimension plénière dans le cœur de Marie. Une nouvelle alliance d'amour. Et dès cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Vous voyez que par là, on peut saisir que Marie est donnée à Jean pour qu'il y ait dans le cœur de Jean un nouveau lien d'intimité avec Jésus. Pour que toutes les paroles que Jésus a adressées aux apôtres, Marie étant présente, fussent reçus comme reçoit la bonne terre, fussent reçus dans une profondeur nouvelle. Et ça, ça explique l'évangile de Jean, au point de vue mystique. Puisque c'est Marie qui a suivi Jésus durant toute sa vie apostolique qui est donnée à Jean. Et si elle est donnée à Jean, c'est pour que Jean puisse nous parler de Jésus dans la lumière de Marie. Pour que Jean puisse parler de Jésus dans une intimité qu'il ne connaissait pas avant. Il la respectait, mais il n'y avait pas ce lien personnel. Je crois que tout le monde respecte Marie, mais tout le monde n'entre pas dans l'intimité de son cœur. Et pourquoi on n'entre pas dans l'intimité de son cœur? C'est parce qu'on ne reçoit pas la parole de Jésus, « Voilà ta mère », comme une parole qui nous est adressée. Et donc comme une parole qui transforme notre cœur dans un cœur de fils bien-aimé à l'égard de Marie. Et qui permet de la recevoir telle qu'elle est à la croix, c'est-à-dire vivant le mystère de la compassion, celle qui a porté toutes les paroles de Jésus, celle qui en a vécu. Après cela, sachant que désormais tout était achevé. Vous voyez que Saint Jean souligne, et ça c'est quand même très important. Après cela, sachant que désormais tout était achevé. Donc le don que Jésus fait de Marie à Jean, c'est l'achèvement dans la lumière même de l'Esprit Saint pour que fût accomplie l'Écriture. Jésus dit « J'ai soif ». Alors ça, c'est l'accomplissement de l'Écriture. Alors vous voyez les achèvements différents. Je crois que là, il faut les souligner très fort. Il y a un achèvement premier. Après cela, sachant que désormais, tout était achevé. Tant que Marie n'était pas donnée, ce n'était pas achevé. Parce que Jésus gardait un trésor. Grand trésor de son cœur, c'est Marie. Qui lui a été donné par le Père. Pour que fût accomplie l'Écriture, Jésus dit « J'ai soif ». Maintenant, c'est l'accomplissement de l'Écriture. Et pour que l'accomplissement de l'Écriture se fasse, Jésus dit « J'ai soif ». Alors, on comprend cet accomplissement de l'Écriture. C'est que, de fait, Jésus porte en lui les paroles du psaume. Sans ça, il achève l'Écriture, puisque l'Écriture s'achève dans son cœur. Il dit « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa donc à une branche d'hysope une éponge pleine de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Lors donc que Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est achevé ». Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Alors, vous voyez comment le cri de soif est lié à la remise complète de son esprit entre les mains du Père. Le cri de soif est lié à cet achèvement entre les mains du Père. Alors, regardons d'abord ce cri de soif. Facilement, vous savez bien, comme souvent les dernières paroles de Jésus sur la croix, on les relativise un peu en les replongeant dans ce qu'il y a de propre à l'Ancien Testament. Alors que c'est l'inverse que nous devons faire. Ce n'est pas l'Ancien Testament qui est clair. C'est Jésus qui éclaire l'Ancien Testament. Et donc je crois qu'on doit recevoir ces paroles dans leur absolu de simplicité. Jésus exprime la soif de son cœur d'une façon toute nouvelle. C'est le cri de l'enfant dans le désert. Depuis le petit Ismaël, c'est le cri de l'enfant dans le désert. Et ici, c'est le cri du Fils bien-aimé. Ce cri s'adresse au Père et s'adresse à Marie. Et je crois qu'on peut dire qu'il s'adresse aux deux. Alors qu'est-ce qu'il exprime, ce cri? Il exprime le désir profond du cœur du Christ, la soif, que la croix, si grande qu'elle soit, si merveilleuse qu'elle soit, et la croix impliquant aussi le don de Marie, n'épuise pas tout l'amour qu'il y a dans le cœur de Jésus. Une œuvre n'est jamais adéquate à l'amour. C'est pour ça que les contemplatifs n'ont pas d'œuvre. Pour maintenir le cri de soif, Jésus a eu une œuvre, c'est très grand. C'est bien évident, c'est l'œuvre de la croix. C'était ce que le Père lui demandait de faire. Mais Jésus veut nous faire comprendre qu'il y a un dépassement aux œuvres. Et ce dépassement aux œuvres, c'est le cri de soif. C'est le cri d'appel. C'est la soif de son cœur. C'est la soif d'amour de son cœur. Je crois que c'est cela qui nous est montré par ce cri de soif. C'est donc important pour nous. Nous avons vu tout à l'heure comment la parole de Jésus « Femme, voilà ton fils » lie la contemplation à la fécondité apostolique. Et ici, nous avons cet autre aspect. Le cri de soif nous montre le dépassement de la contemplation par rapport à l'œuvre de la croix. Donc, si importante que soit l'œuvre de la croix, il n'y a pas une œuvre aussi importante que celle-là, puisque c'est l'œuvre de la rédemption, si importante que soit l'œuvre de la croix, elle n'est pas adéquate à la plénitude d'amour, à l'amour infini qu'il y a dans le cœur de Jésus. Parce que jamais une œuvre ne peut assouvir un amour infini tel qu'il est dans le cœur de Jésus. Et Jésus l'exprime, ça. Et c'est, je crois, ce que Marie a compris. Elle l'a reçu, ce cri de soif. C'était pour elle, pour qu'elle accompagne Jésus dans cette soif, pour qu'elle aille jusqu'au bout de cette soif avec Jésus. Et on souligne, et ça c'est extrêmement beau, on souligne la manière dont les hommes l'ont reçu. Comme fait presque toujours Jean. Jean souligne, c'est le réalisme extraordinaire de l'évangile de saint Jean, ça. C'est de montrer toujours la manière dont ceux qui sont proches de Jésus reçoivent les paroles de Jésus sans les comprendre. Il est bien évident que ceux qui ont reçu, qui ont entendu cette parole et qui n'ont qu'un seul souci, c'est de présenter à Jésus une éponge pleine de vinaigre et de l'approcher de la bouche. Autrement dit, ils ont compris le cri de soif de Jésus comme un cri de soif d'ordre biologique. C'est très vrai. Jésus a soif, biologiquement, il est sur la croix. Mais Jésus ne s'arrête jamais à l'aspect biologique. Ça aurait été la seule fois de sa vie. On ne peut pas. C'est impossible. Il est fils de Dieu. Et toutes ces activités ont une dimension divine. Alors, les hommes s'arrêtent à ce que Catherine de Sienne aurait dit, l'écorce. Et ils ne comprennent pas la moelle. Ils s'arrêtent à l'écorce, c'est-à-dire qu'ils comprennent matériellement le cri de soif. Et ils répondent à cet appel avec une très bonne intention, une intention de miséricorde, une intention de pitié. Ce crucifié qui appelle, on lui répond. Il est si grand, il leur apparaît avec une telle noblesse et une telle grandeur dans la souffrance. C'est dans la souffrance que l'homme apparaît dans la plus grande grandeur, c'est pas dans la joie. C'est dans la souffrance où l'homme est pleinement lui-même et où tout éclate ses limites. Hein. Voilà, voici l'homme. C'est quand il est crucifié qu'il est pleinement voici l'homme. Et ces femmes, ces pieuses femmes qui sont là, immédiatement répondent. Et pour bien nous faire comprendre que ce n'est pas cela que Jésus demandait, et pour montrer aussi l'attitude merveilleuse du Christ d'humilité, lors que Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est achevé ». Le vinaigre était fait pour apaiser un peu la souffrance. Et Jésus le reçoit par miséricorde, mais il n'en connaît aucun effet. Puisque immédiatement, il dit tout est achevé. Je crois que tous ces épisodes montrent bien que ce cri de soif du Christ dépasse infiniment la signification immédiate au niveau du conditionnement humain. J'ai soif, ça fait partie du conditionnement humain. Et le cri de soif du Christ touche la finalité profonde de l'amour. C'est cet amour qui est dans son cœur, qui doit tout prendre. Et c'est, je crois, profondément ce que Marie a compris, et ce que nous devons essayer de comprendre. C'est une initiative du Christ pour nous faire comprendre les profondeurs de son cœur, les profondeurs insondables de son amour, qui dépassent infiniment l'œuvre de la croix.